Je crois que pour entrer en matière, je vous dis un mot très bref sur mon propre cheminement, comment je suis arrivé à connaître la communauté de l'agneau, ce qu'elle signifie pour moi dans ma vie. Donc je suis un vrai bohémien, je suis un vrai bohémien, parce que je suis né en Bohême, parti de la République tchèque, la Moravie et la Bohême, Prague est la capitale de la Bohême, c'est là que je suis né, mais nous avons dû quitter notre terre natale en 45, j'avais 9 mois, je ne me souviens pas trop bien de la fuite, de l'expulsion qui était très dramatique à l'époque. Nous sommes arrivés en Autriche comme réfugiés avec des milliers et des milliers d'autres qui ont trouvé une nouvelle patrie en Autriche, où j'ai grandi dans une famille pas trop pratiquante. En tout cas, la religion n'était pas un sujet à la maison. Ça, mon père était artiste, était peintre. Ma mère travaillait pour nourrir les 4 enfants. C'est seulement à l'âge de 10 ans que j'ai découvert la foi. Et c'était tout de suite aussi lié à l'appel au sacerdoce. J'ai senti fortement cet appel qui m'a accompagné pendant toute ma jeunesse, avec des hauts et des bas. Il y a eu des moments où je croyais que je dois devenir architecte. Il y a une petite sœur qui est architecte. Où est-ce qu'elle est? Là. Voilà. Donc, je ne suis pas devenu architecte, je suis devenu dominicain, parce que j'ai connu les dominicains à l'âge de 14 ans, et c'était le coup de foudre avec les dominicains. L'évêque de mon diocèse n'était pas très content que j'entre chez les dominicains, non pas dans le séminaire diocésain. Mais à 18 ans, donc, je suis entré chez les dominicains. Et c'était en 63. Et j'ai connu très vite la crise qui a submergé l'Église d'une façon très violente. Je vois beaucoup de jeunes qui ne se souviennent évidemment pas de ce tsunami qui a submergé l'Église. Dans quelques années, notre couvent, notre grand monastère des Dominicains, s'est vidé de la moitié par défection, par beaucoup de mes confrères se sont mariés, sont quittés le sacerdoce, la vie religieuse. Et c'était le tohu-va-bohu, c'était le chaos dans la théologie, dans l'enseignement, dans une crise très, très radicale. Peut-être chez les dominicains plus radicale que chez d'autres, en tout cas, je l'ai vécu jeune comme une grosse mise en question. D'abord, j'étais enthousiaste pour toutes les idées nouvelles. Et puis, j'ai vu que ces destructions, surtout me laisser vide, me laisser moi-même vide et triste. Et j'étais moi-même sur le bord de lâcher la vie religieuse et l'orientation vers le sacerdoce. Et souvent, je me demande pourquoi j'ai eu la grâce de persévérer. En tout cas, un facteur très important était la rencontre avec les Dominicains français qui, à l'époque, n'avaient pas encore fait la crise. Elle est arrivée plus tard, en 68, n'est-ce pas? Et j'ai trouvé dans l'Église de France et chez les Dominicains français quelque chose qui nous manquait beaucoup en Allemagne, en Autriche, la spiritualité. Une spiritualité très vivante, très... et aussi un esprit de pauvreté qui souvent manquait chez nous. Parce qu'on était quand même, l'Église était beaucoup plus aisée que chez vous en France. Et puis c'était la rencontre avec l'orthodoxie, à travers un moine orthodoxe qui a beaucoup marqué ma vie et celle de d'un groupe de mes confrères. Et nous avons découvert les pères de l'Église. C'était vraiment comme si un nouvel univers s'ouvrait devant nous, évidemment à travers les sources chrétiennes, à travers les grands maîtres qui nous ont ouvert le chemin, les pères de l'Église, le père de Lubac, le père Axos Fopal, tout ça. Et la lecture directe des pères de l'Église. Et nous avons découvert là une Église toute fraîche, jeune, nouvelle, enfin, l'Église des débuts, Saint-Irénée. Je me rappelle avec quelle passion nous lisions Saint-Irénée de Lyon. Et puis, évidemment, Saint-Maxime le Confesseur, a beaucoup marqué. Mais il y a eu aussi un autre moment qui nous a beaucoup, beaucoup aidé. C'était le renouveau charismatique qui arrivait en France et en Autriche au début des années 70. Comme nous disions, au début des années 70. Je ne sais pas si c'est permis dans le nord de France, de Paris, de septembre. C'était un phénomène difficile à expliquer, mais je me rappelle comment les Actes des Apôtres, dans ce groupe de prière qui s'est vite créé, les Actes des Apôtres prenaient une actualité extraordinaire. En relisant les Actes des Apôtres, on avait l'impression de vivre cette nouveauté de l'Église, cette nouveauté de l'Esprit Saint, de son œuvre. Et de cela, de cet événement, je crois qu'on peut dire, cette effusion de l'Esprit Saint, sont nées beaucoup de nouvelles communautés. D'abord, les groupes de prière. Ça fleurit un peu partout, des groupes de prière. Moi, je me rappelle à Vienne, au couvent des Dominicains, s'est créé un groupe de prière qui a donné naissance à une très belle communauté qui est restée locale à Vienne, mais continue à avoir une belle histoire, une communauté de chrétiens qui n'est pas devenue un ordre religieux, mais une communauté chrétienne. En France, j'ai assisté, j'ai vécu de tout près la naissance de la communauté de l'Emmanuel. Le père Albert de Montlion, qui était mon voisin de France, avec quelques amis qui priaient. C'était vraiment les tout débuts de cette communauté qui a donné tant de fruits à l'Église. Et sont nées aussi des communautés nouvelles, communautés religieuses, parmi lesquelles la communauté de l'Agneau. Nous étions quelques frères dominicains, petit groupe qui venait à la rue de Condé à Paris, avec un vieux père dominicain qui nous initiait à Saint Thomas d'une façon très vivante. Il nous faisait la lecture de Saint Thomas d'Aquin. Vous savez, c'est aussi un dominicain, Saint Thomas d'Aquin. Peut-être vous avez entendu ce nom. Il n'est pas interdit de le lire, Saint Thomas d'Aquin. Et il y avait là des sœurs, des jeunes sœurs dominicaines qui accueillaient un foyer d'étudiantes. Et mine de rien, de cela est née une communauté nouvelle qu'on ne pouvait pas deviner à l'époque, mais que le Seigneur a béni et qui est ici présente ce soir. Évidemment, on pourrait donner beaucoup d'autres noms de communautés qui sont nées à cette époque. C'est le chemin neuf, c'est le verbe de vie et bien d'autres communautés. En tout cas, c'était une époque de grande grâce. Maintenant, ça fait 40 ans et on est un peu en danger de faire des histoires des anciens combattants. Et il faut regarder le présent. Le présent de notre Église en cette Europe qui a tellement changé depuis 40 ans, 50 ans, qui est devenue une Europe unie d'une façon inconcevable il y a 50 ans. Inconcevable. Je vous dis juste un souvenir pour moi inoubliable quand je suis arrivé en 68 chez les Dominicains de Paris pour étudier, pour faire la théologie. Il y avait un vieux père, ce père qui nous a initiés à Saint-Thomas, qui m'a invité à une petite promenade dans le parc du couvent, dans le jardin du couvent. Et tout à coup, il commence à pleurer. Et il s'arrête, me regarde et me dit, « Mais imaginez-vous, mon grand-père a fait 1870, la guerre entre la France et l'Allemagne. Mon père a fait la première guerre, 14-18. Moi, j'ai fait 4 ans de prisonnier de guerre en Allemagne. Et maintenant, vous, Autrichiens de langue allemande, et moi, Français, nous nous promenons ici, tout paisiblement. Ça m'a bouleversé, ça m'a bouleversé. Aujourd'hui, entre la France et l'Allemagne, on imagine difficilement une guerre. Un journaliste allemand a écrit récemment, il a été au Pakistan, et son interlocuteur lui a demandé, mais comment vous, Allemands, vous n'avez pas de bombe atomique alors que les Français ont une bombe atomique? Et le journaliste, que je connais personnellement, a dit, mais la question me surprend, entre le Pakistan et les Indes, c'est la concurrence de l'armement atomique. Les Allemands n'ont pas peur des Français, et les Français ne considèrent pas les Allemands comme leurs ennemis. Il s'est fait beaucoup en cette Europe. Il s'est fait vraiment une œuvre d'unification, d'intégration, que d'ailleurs les papes, depuis Pie XII, ont toujours beaucoup soutenu et souhaité. Mais en même temps, nous vivons sur ce continent une déchristianisation absolument incompréhensible pour le reste du monde. Et nos amis américains nous disent, on ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe en Europe? Pourquoi cette défection de la foi chrétienne en Europe? Qu'est-ce qui se passe? Cette apostasie chrétienne de l'Europe? Grosse question, grosse interrogation. Où est-ce que nous allons? Quel est le chemin de l'Église? J'ai fait récemment une conférence à Berlin devant la première ministre, devant Angela Merkel et 900 personnes, dont une bonne partie du gouvernement du Berlin officiel. Chaque année, l'Église catholique fait une invitation, ils invitent des orateurs. Alors, j'étais l'orateur de l'occasion, de la circonstance, et j'ai fait un peu. J'ai esquissé la déchristianisation de la politique en Europe. Devant Madame Merkel, qui est protestante, pratiquante, fille d'un pasteur protestant, deux ministres catholiques étaient présents là. Qu'est-ce qui se passe en Europe? Et j'ai commencé avec 75, les lois sur l'avortement, pratiquement généralisées en une bonne partie de l'Europe, jusqu'aux lois sur l'euthanasie, sur le mariage, soi-disant le mariage gay, mais surtout les questions de bioéthique, la PID, la diagnostic de préimplantation, etc. Et sur tous ces points, la foi chrétienne semble être sur la voie de retraite, enfin en bas retraite, partout, constamment. Ça semble être inexorable. Où va l'Europe? Alors j'ai posé la question à Berlin devant cet auditoire. Est-ce que le christianisme est devenu un corps étranger en Europe? J'ai posé la question, christianisme racine ou corps étranger? Nous parlons toujours des racines chrétiennes de l'Europe, et c'est évident. Traverser l'Europe en touriste et vous voyez que partout, il y a les traces de la chrétienté. Mais est-ce que le christianisme est entre-temps devenu un corps étranger? Comme dans un corps qui a un corps étranger que le corps rejette. C'est de dire que la foi chrétienne est les deux. Sans aucun doute, la foi chrétienne est une des grandes racines de l'Europe. Avec la foi juive, la foi biblique, certainement l'héritage grec, l'héritage romain. D'une certaine façon, il y a une influence islamique en Europe, dans les racines de l'Europe, mais prédominant évidemment le christianisme. Mais si on regarde de plus près, constamment, dans l'histoire de l'Europe, nous voyons que le christianisme a toujours été aussi une espèce d'opposition contre certaines tendances qui ont toujours existé. Et si vous prenez l'histoire des saints de l'Europe, ils ont presque toujours été à contre-courant. Être chrétien, c'est inévitablement être à contre-courant. Non pas parce qu'on refuse le monde, parce qu'on pense mal du monde, mais parce que la foi chrétienne n'arrive que à travers la conversion. Et la conversion, elle nous prend à rebrousse-poil. La conversion, c'est justement quelque chose qui nous dit tu dois changer ta vie. Et le ferment chrétien, le ferment de l'Évangile, a toujours été une force de conversion. Et si on le regarde sous cet angle, notre situation en Europe, et peut-être notre situation de chrétien en Europe, n'est peut-être pas tellement surprenante. Parce que l'appel à la conversion est la première parole de Jésus dans l'Évangile. Le royaume de Dieu est proche, les temps sont accomplis. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Convertissez-vous. Alors, avec cet appel à la conversion, adressé à l'Europe, adressé à chacun de nous dans cette Europe, évidemment, il reste toujours un élément d'étrangeté, de différence, que parfois se manifeste à nous comme opposition, comme hostilité, persécution, comme incompréhension. Et pour un chrétien, ça ne devrait pas être surprenant qu'on doive ramer à contre-courant, contre vents et marées. Et c'est uniquement à travers l'acceptation d'être aussi incompris, d'être aussi refusé, rejeté, que apporter la bonne nouvelle. Alors notre situation de chrétien est peut-être pas très commode, mais elle est aussi belle parce que pleine d'espérance, d'une espérance qui finalement vit dans le cœur de beaucoup de personnes. Je termine avec une parole que m'a dit récemment un homme qui a quitté l'Église. Ça vous dit pas grand-chose. Chez nous, en Autriche, on peut quitter l'Église. Vous allez au registre civil, au magistrat, et vous déclarez « Je ne veux plus être catholique ». Alors vous êtes rayé et dorénavant, au registre civil, vous êtes officiellement ORB. Donc vous pouvez quitter civilement l'Église. En France, c'est impensable. Et l'Église reçoit par le magistrat l'information que telle personne a quitté l'Église. Et par la loi autrichienne, nous devons respecter cela. Actuellement, il y a en Autriche, chaque année, quelques 40, 50 000 personnes qui quittent l'Église par ce type de déclaration au registre civil. Et dorénavant, ils sont sans confession religieuse, ORB, où on est religieux, c'est spécialiste. C'est-à-dire qu'ils sont officiellement sans religion. La plupart d'entre eux sont baptisés, mais officiellement, ils ont quitté l'Église. C'est un phénomène d'une longue histoire en Autriche. Et ça, c'est très douloureux, et une réalité avec laquelle nous devons vivre. Donc, ce monsieur avait quitté l'Église il y a 30 ans. Pour quel motif? Il voulait absolument me voir, je l'ai reçu, a eu un bon entretien. À la fin de cet entretien, il m'a dit, vous savez, je ne crois pas en Dieu, mais j'ai la nostalgie de Dieu. Ich glaube nicht an Gott, aber ich sehne mich nach Gott. J'ai le désir de Dieu. Et l'autre jour, la semaine dernière, lundi dernier, nous avons reçu dans une réunion de prêtres un écrivain très, très célèbre. Martin Walser, qui est un des écrivains les plus connus allemands, et il a dit une chose assez semblable. Il a dit, si un athée me dit ne pas croire en Dieu, je lui dis, mais au moins, il devrait te manquer. Et je crois que ça dit beaucoup sur la situation de l'Europe aujourd'hui. Alors nous avons la grâce d'être un peu les lieutenants de cette nostalgie qui est vivante dans tant de cœurs et peut-être parfois pouvant dire à nos concitoyens ce qu'est le fond de cette nostalgie, leur annoncer celui qui répond.
On va passer à l'échange. On va se donner le mic, vous levez la main, vous ne criez pas. Il y a des étudiants, il y a des jeunes pros, on a pensé à eux aujourd'hui, parce que mardi c'est plus difficile. Donc j'invite les plus jeunes d'entre nous à oser des questions, en profiter, aussi bien au Père Christophe qu'au Père Jean-Paul. Je dis la vie du Père Évêque, mais là j'ai une
question. Liberté.
Je mets au diapason. Alors vous levez la main et puis j'approche avec le micro. Des questions précises, courtes, pour qu'il y ait plusieurs questions.
Bonjour, je m'appelle Hubert. Merci déjà. Une petite question. Vous avez parlé de l'athéisme aujourd'hui et de cette nostalgie qu'il y avait dans le cœur des gens. Vous avez parlé également des lois qui existent depuis une quarantaine d'années, qui sont montées un peu partout en Europe. Et actuellement, il y a un débat très fort en France sur le mariage homosexuel, l'adoption. Et je me pose un petit peu cette question, c'est quelle attitude un petit peu les... C'est une chose d'avoir une réflexion sur ces questions-là, mais quelle attitude les chrétiens peuvent avoir aujourd'hui qui vous semble une attitude chrétienne pour annoncer leur message, en fait. Voilà.
Deux, trois questions, comme ça, on va réfléchir un peu. Allez-y. Il y avait des jeunes depuis longtemps qui te levaient la main. Je ne veux pas refuser les questions des plus âgés.
Parce qu'il n'y a pas complètement. Parce que Dieu ne devrait pas encore longtemps.
Donc c'est un peu très bien à ajouter devant les personnes qui ont des questions positives, la question de, du Saint-Esprit, du mal du Saint-Esprit, et puis le changement.
Oui, oui. Eh bien, je commence par la dernière question. C'est une question très, très biblique. Il y a le passage dans le psaume qui demande Dieu, est-ce que tu as changé? Tu nous as quittés, tu nous as abandonnés, tu ne sors plus avec nos armées, le peuple élu. Est-ce que ce qui me chagrine, le psalmiste, c'est que ton bras droit a changé. Un autre psaume dit que nous tous nous changeons comme un vêtement. L'autre jour, on m'a dit éminence, votre manteau est déjà un peu vieillot. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'a que 15 ans, c'est quand même pas mal. Voilà. Oui, nous changeons tous. Est-ce que Dieu change? Est-ce qu'il devrait changer? Est-ce que, une question souvent posée, si je prie, est-ce que c'est pour que Dieu change? Si je lui demande d'arrêter le cours des événements, par exemple une maladie, si je le supplie de guérir un malade, et si cela arrive, est-ce que Dieu a changé d'avis parce que je l'ai supplié? C'est une grosse question. Moi, ma réponse est, je voulais écrire un livre sur ce sujet. Maintenant, comme évêque, j'ai plus le temps d'écrire des livres costauds. Parce que c'est une question qui a travaillé toute l'histoire chrétienne. Moi, je vous donne ma réponse très personnelle. C'est de dire, Dieu, merci, Dieu ne change pas. Parce qu'il est amour. Et son amour est autre que le nôtre. Notre amour est comme le baromètre, n'est-ce pas? Il tombe, il monte, ça change par saison, par envie, par circonstances, etc. Mais son amour est fidèle. Lui, il ne veut pas devenir infidèle. Alors, je pense pour le peuple juif, pour la Bible, la conviction, toi, tu ne changes pas. Tout fout le camp, en 17 ans, en 68. Ça, tout fout le camp. Non, tout change ici-bas, nous-mêmes. Tout. Dieu ne change pas. C'est une bonne nouvelle. Il est celui qui est. Il est. À la différence de nous qui sommes toujours en mouvement, en changement. Et quelle promesse que un jour notre cœur sera entièrement fixé, ancré en lui, sans pouvoir, sans vouloir changer, parce qu'on aura trouvé le vrai amour. Ça, c'est ma réponse personnelle, mais si vous voulez une discussion théologique, on doit discuter sur Whitehead et sur les théologiens qui ont traité ce sujet amplement. Alors, j'arrive au malin. À ces malins théologiens qui croient qu'il n'y a pas de malin. De dire, après le XXe siècle, que le mal masculin, pas seulement neutre, le mal n'existe pas, c'est presque une insulte. Devant les horreurs de l'archipel Goulag et des camps de concentration, dire que tout cela est uniquement à mettre sur les épaules des hommes. Non. Jean-Paul II, dans son tout dernier livre, a une phrase extraordinaire. C'est des entretiens qu'il avait fait à Castel Gandolfo avec des amis. On a enregistré ces entretiens et c'est le dernier livre qui est sorti de lui avant sa mort. Ça s'appelle Mémoire et identité. Mémoire et identité. Et là, une des discussions est sur le déferlement du mal au XXe siècle. Et Jean-Paul II a une réponse très étonnante que Benoît XVI a repris plusieurs fois. Seule la miséricorde de Dieu pouvait mettre une limite au déferlement du mal. C'est une évidence biblique. Enfin, nous avons dans la lecture courante de la messe de tous les jours maintenant l'évangile de Marc, où les premières manifestations de la présence de Jésus sont des manifestations des démons. J'ai un exorciste dans le diocèse, un prêtre que j'ai nommé pour cela. Bon, nous avons un grand diocèse, nous avons une tradition de beaucoup de côtés sombres, disons, à Vienne. Je ne dirais pas du satanisme, mais de choses obscures. Et il me fait régulièrement son rapport sur son activité. Il est très sobre, il travaille toujours avec un médecin, toujours avec d'autres personnes qui prient, qui accompagnent. Mais déjà, il a affaire. Et pas mal. Parce que c'est une réalité. Jésus est tellement clair là-dessus, que c'est étrange de mettre cela en question. Ceci dit, j'ai été très frappé en étudiant la question chez la petite Thérèse. Il y a maintenant une concordance de tous les mots qu'utilise la petite Thérèse. Elle fait un gros volume de concordance. Si vous regardez sous le vocable diable, il y a très peu. C'est frappant. Et je suis sûr que la petite Thérèse, qui avait la foi catholique, elle est docteur de l'Église, n'est-ce pas, elle savait que le diable existe. Mais il y a très peu de passages où il parle du diable, très peu. Alors que sur miséricorde, il y a 3 pages entières de références sur la miséricorde. Et ça rejoint ce que dit Jean-Paul II, c'est pas là, le déferlement du mal qui est une réalité tellement indéniable et limitée par l'immense, l'inépuisable miséricorde. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que dans la sainteté du XXe siècle, déjà avec Thérèse, le message de la miséricorde est tellement dominant. Alors, le réalisme du mal est le plus grand réalisme de la miséricorde. Et quant au débat qui secoue la France actuellement, je suis très impressionné par les évêques les paroles que vous avez trouvées à ce sujet, qui je crois, ont trouvé le ton juste, parce que, pardon, c'est pas à moi de vous donner des notes, je ne suis pas le prof qui donne des notes, mais j'étais impressionné par ces paroles. Surtout positif, parler du père et de la mère, de cette réalité vitale qui restera pour toujours la réalité de base et la réalité de fond. Chaque être humain a un père et une mère, et d'une certaine façon, nous ne pouvons pas dire « j'ai un droit à un père et une mère ». C'est un fait. Mais de ce fait vient aussi que c'est un devoir de la société de protéger ce noyau de la vie humaine, de la société qui est la famille. On me pose très souvent cette question, pourquoi l'Église est contre le mariage gay ? Je visite beaucoup les écoles, les jeunes me posent cette question. J'ai dit, mais non, l'Église n'est pas du tout contre le mariage gay. L'Église n'est pas contre le mariage gay. Alors, grande surprise. Grande surprise, mais je dis, l'Église n'est pas contre quelque chose qui n'existe pas. Parce que le mariage gay n'existe pas. Et ça, c'est une de ces trappes typiques de notre époque, c'est qu'on falsifie le langage. La falsification du langage est une des méthodes qu'ont toujours utilisées les dictatures pour tromper. Chez nous, on parlait dans les années 70 de l'interruption de la grossesse. Vous pouvez interrompre un courant.
Je peux fermer le micro. C'est une interruption.
Et je rouvre le micro et je continue. Mais une grossesse ne peut pas être interrompue. On a trompé à travers ce langage, suggérer que ce n'est qu'une interruption. On tue un être humain. La même chose avec l'euthanasie. L'euthanasie, le mot même est un mensonge. La bonne mort. Non, c'est tuer une personne. J'ai un ami de classe qui est médecin, est un très bon médecin. Il m'a raconté que ça lui arrive, il est urologue, n'est-ce pas, ça lui arrive que quelqu'un vient chez lui dire, docteur, notre mémère, notre grand-mère, elle souffre tellement, est-ce que vous ne pourriez pas abréger sa souffrance? Alors, il répond, mais tuez vous-même votre mémère. Tout à coup, la chose est claire. C'est un assassinat. On tue, voilà. Alors on l'appelle euthanasie, la bonne mort. C'est un mensonge. Alors, soyons honnêtes, dans certains pays de l'Europe, en Hollande, en Belgique, on a donné la permission de tuer des vieux et des malades. Voilà. on a donné licence de d'assassinat. Un point, c'est tout. Alors, ne nous trompons pas sur les paroles. Disons, il y a un proverbe chinois de Lao Tse qui dit qu'un carré, appeler un carré, et un cercle, et la politique redeviendra en ordre. Appeler les choses par leur nom. Je crois que ça, c'est une des grandes forces de la foi chrétienne. Elle nous donne la liberté d'appeler les choses par leur nom. Alors, il y a un partenariat de personnes du même sexe, du même sexe. Et en Autriche, nous n'avons pas fait opposition forte des évêques contre la loi que le gouvernement, le Parlement a votée pour régler certains points de droit civil pour des personnes qui convivent dans un partenariat. Par exemple, le droit de visiter à l'hôpital, le droit d'héritage, le droit d'entrer en succession, etc. C'est des points de droit civil qu'on peut régler pour des partenariats qui soient d'orientation sexuelle ou non, deux vieilles dames qui convivent parce qu'elles s'aident mutuellement, qu'on puisse régler civilement les questions d'héritage, etc. Ça, nous étions tout à fait d'accord qu'on fasse cela aussi pour des partenariats de personnes du même sexe. Mais qu'on fasse bien clairement la distinction entre ce type de partenariat et l'institution de la famille, qui dans toutes les législations du monde a une place privilégiée. Et pour cause, parce que c'est la cellule de la société. Alors, nous devons tenir ferme qu'il n'y a pas de mariage gay, parce que par définition, le mariage est l'union durable entre un homme et une femme, normalement ouverte à la vie nouvelle. C'est la définition classique du mariage. Laissons les choses être ce qu'elles sont. Et c'est pour ça que je plaide plutôt à ne pas entrer dans un débat sur le mariage gay, de ne pas utiliser ce terme. Parce que le terme même est déjà faux. Le catéchisme dit quand même que les personnes qui ont une inclination vers le même sexe ont droit à l'estime, ne doivent pas être discriminées. Et je crois qu'il est requis de nous, chrétiens, de montrer une attitude, d'avoir une attitude respectueuse envers des personnes qui ont cette tendance, tout en maintenant que, avec la Bible, avec la tradition de l'Église, nous disons que ce n'est pas l'ordre du Créateur. Il les a créés hommes et femmes, et c'est pour cela que l'homme quittera père et mère et adhérera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ça, c'est l'ordre du Créateur. Mais nous ne devons pas faire ce qu'ont fait les nazis, de mettre les homosexuels dans les camps de concentration ou d'exiger, je ne sais pas, quelle discrimination des personnes de cette tendance.
Yeah.
personne. On avait dit 9h30, le temps. On a commencé à 20h45, il est 21h45. J'ai peur d'un deuxième tour de questions, sauf si des questions brèves, très précises.
Des réponses brèves.
Et des réponses brèves. Je n'osais pas le dire. De la saveur à une pratique, notamment en couple. Qu'est-ce que propose l'Église pour retrouver une saveur pas nostalgique, hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y.
Je ne dirais pas que cette question est plus actuelle que celle du vieil homme. Parce que la question du vieil homme est archi actuelle. Martin Luther disait que le vieil homme ressurgit tous les jours et il faut le noyer dans l'eau du baptême tous les jours. Oui. Le vieil homme, c'est nous. Et l'homme nouveau en Christ, c'est nous. Mais quelle bagarre! Et la vie chrétienne est une bagarre. C'est un combat. Saint Paul en parle de façon très, 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 très claire. Et c'est un combat dans lequel nous avons une armée fantastique à notre défense, à notre soutien. C'est toute l'Église du ciel. S'il y a des jeunes, ce qui n'est pas toujours le cas, s'il y a des choses, je sais de parler avec eux. Je leur demande, dans ta classe, est-ce que tu es le seul à pratiquer la foi, ta foi, ou est-ce que vous êtes plusieurs? Presque toujours, la réponse est je suis unique. Alors ça, c'est dans la catholique Autriche. Je ne sais pas comment c'est dans la catholique France. Mais il y a un phénomène. C'est que Jésus est capable de rejoindre tout le monde par des chemins qu'il connaît seul. Et je suis sûr que ici, dans cette église, dans cette assemblée, il y a beaucoup qui ne sont pas venus à la fois tout droit depuis leur petite enfance, mais qui un jour ont rencontré Jésus, ou que Jésus a rencontré. Et ça c'est sa force invincible. Il est souverain. Il peut rejoindre. Alors, par des chemins qu'il connaît lui seul, et c'est magnifique si nous pouvons être de service, si on peut aider à cela, mais on ne le promet certainement pas. C'est pas une humiliation de dire que nous, les prêtres, les fidèles, nous ne produisons pas la foi, même pas de nos enfants. C'est toujours la grâce. Donne la foi, c'est la grâce qui fait les croyants. Mais nous pouvons être au service de la grâce. Et ça, c'est, je pense, aussi la réponse à votre question, comment notre foi peut être ravivée. Saint Paul dit à Timothée, c'est dans une parole grecque formidable. Il lui demande de raviver la flamme du charisme qui est en lui par l'imposition des mains. Bon, c'est le charisme spécial de son ministère. Mais le mot qu'il utilise, c'est anazo purei. C'est redonner vie à la flamme, au feu. Par le Saint-Esprit. Comment Dieu fait cela? C'est un secret d'amour, finalement. Quand Jésus dit dans l'Apocalypse à l'église d'Éphèse, je crois, j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour, que l'amour se refroidit. Refleurir. Comment? En tout cas, on doit demander d'en avoir la nostalgie, le désir. J'ai écrit aujourd'hui à une correspondante par SMS, par texto. Je lui ai écrit, mais le désir que tu as d'aimer Jésus. Ça vient quand même de Jésus. Parce qu'elle s'est plainte qu'elle n'arrive pas à avoir un vrai amour. Elle désire tellement Jésus. Mais ce désir, ça vient de Jésus qui t'attire. Alors, ce désir déjà vient de lui. Le désir de ne pas avoir une foi tiède, c'est déjà l'œuvre de l'Esprit Saint. Alors, donc, il est à l'œuvre. Ah, l'Europe, j'ai oublié l'Europe. Oui, que actuellement il y ait des tensions entre l'Allemagne et le reste, ce n'est pas surprenant parce que nous nous trouvons dans une situation très tendue. Parce que peut-être on a introduit l'euro trop vite. Certains disent qu'il manquait les instruments politiques pour avoir une currency, comment on dit ça ? Une monnaie commune. Je commence à oublier mon français, c'est terrible. On a fait peut-être un peu trop vite. Ouais. Et maintenant, ça grince un peu dans la construction. Les poutres doivent être ajustées. Mais j'espère que la baraque tient quand même. Elle tiendra ces tensions. Et évidemment, la tension entre ceux qui veulent relâcher les critères de stabilité et les Allemands qui veulent les tenir à tout prix. C'est une tension réelle. Et ce n'est pas évident que la justice soit bien distribuée. Parce que quand je pense qu'en Allemagne et en Autriche, l'État ne paye que 2% pour ses les papiers d'État, n'est-ce pas? Alors que la Grèce doit payer 5 et plus, on se demande comment l'économie des Grecs pourra se stabiliser avec un tel taux d'intérêt. L'Allemagne qui est solide et l'Autriche qui est aussi très solide économiquement ne paye que 2%. Là, c'est des injustices dans la construction. Faudrait-il pas avoir un taux d'intérêt commun pour toute l'Europe, pour toute la zone euro? Mais ça, c'est des questions sur lesquelles vous savez certainement plus que moi, qui suis un pauvre curé de campagne. Cette œuvre tienne, parce que c'est une œuvre de paix. Quand je pense, vivant à Vienne, j'ai connu le rideau de fer, la traversée vers ma patrie, vers la Tchéquie, était toujours une horreur, passer le rideau de fer. Et aujourd'hui, on passe même sans